Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la Fondation des ministres des Églises protestantes, parce qu'elle a fêté ses 160 ans jeudi dernier, jeudi 5 décembre, à Montpellier, à l'occasion de l'inauguration de la Villa Louis, nouvelle villa qui vient d'être terminée et qui est destinée à au logement des pasteurs ou des personnes ayant travaillé pour l'Église protestante, voilà, pour les retraités. Et donc, ça a été l'occasion de nous remémorer ce qu'est la Fondation des ministres et de visiter bien sûr aussi cette fameuse Villa Louis. Je vous invite à écouter maintenant le rappel historique que nous a donné jeudi dernier donc Jean-Daniel Roch, président de la Fédération des ministres de l'Église protestante. Je vous souhaite une bonne écoute et nous nous retrouvons juste après pour terminer cette émission.
Son histoire est en deux temps. Premier temps, l'histoire d'une caisse de retraite, une des plus anciennes caisses de retraite de France. Et deuxième temps, la situation actuelle et ses développements depuis une quarantaine d'années. Donc, la situation au début du 19e siècle, rappelez quelques dates, le rétablissement de la liberté du culte, c'est uniquement 1791, donc c'est pas si vieux que ça. Et le rétablissement effectif de l'organisation de l'Église réformée, c'est 1802. Et ce rétablissement de l'Église réformée en 1802 a été suivi en 1807 par la décision de rémunérer les pasteurs. C'est les deux points de départ qui ont été pris par Napoléon. Mais il s'est dépêché de décider en 1807 qu'il n'était pas question de créer de caisses de retraite, pour la bonne raison, disait-il, qu'il est établi dans tous les cultes, que lorsqu'on est ministre du culte, c'est toute sa vie. Et il faut bien reconnaître, je ne crois pas qu'il avait fait le lien, mais il faut bien reconnaître que son propos n'était pas dénué de fondement, puisque c'est ce que disait la discipline des Églises réformées de France du XVIe et XVIIe siècle. C'était toute la vie. Et que s'il arrivait qu'un pasteur rencontrait des difficultés, eh bien il appartenait à son Église de lui donner un assistant le temps que, mais tant que le pasteur vivait, il était titulaire du poste. Donc, avec cet argument, partagé bien sûr par les autorités catholiques, la question de la caisse de retraite n'a pas été même soulevée. Il n'y en avait pas, point final. Pour autant, dans les faits, on rencontrait beaucoup de difficultés. Difficulté, c'est que, d'une part, tant que les pasteurs vivaient, ils étaient titulaires du poste, donc on ne pouvait pas nommer sur le poste de plus jeunes pasteurs, qui avaient été formés, qui étaient compétents, etc., mais le poste était occupé. Et puis, deuxièmement, parfois le pasteur était même dans l'incapacité de prêcher ou d'effectuer son ministère. Et puis troisièmement, comme de nos jours, il arrivait qu'il meure beaucoup plus tôt en laissant une veuve et des enfants. Donc toutes ces questions étaient en suspens. Un certain nombre de diocèses avaient pris des dispositions, mais un peu fragmentaires, et il n'y avait pas de disposition étatique. Devant cette situation, quelques efforts ont été tentés, en Alsace en particulier, puisque en Alsace, les culte était quand même établi depuis plus longtemps que chez nous, puisque c'est un fait qu'on ignore souvent. La première caisse de retraite en Alsace date de 1759, c'est-à-dire avant même la Révolution française. Et il y a eu un effort complémentaire à Bordeaux pour s'occuper des veuves de pasteurs. Mais chaque fois, c'était des efforts pour ceux qui le voulaient et avec des moyens très limités. Pour vous donner une illustration, l'aide aux veuves de pasteurs de la Caisse de Bordeaux, c'était 200 francs par an. Bien sûr, 200 francs de l'époque. Hein. Mais ce n'était pas grand monde, puisque le traitement d'un pasteur à l'époque, c'était 1500. Donc 200, ce n'était pas... Donc c'était quand même un problème réel, connu, mais qui avait comme obstacle la position de l'État. Ce n'est pas à nous de nous occuper de cette question. Et c'était vrai d'ailleurs pour tous les fonctionnaires. Le premier changement est arrivé en 1850, puisqu'en 1850, donc sous la Seconde République, pour la première fois, on s'est dit si on créait des caisses de retraite pour les fonctionnaires. propos tout à fait révolutionnaires à l'époque. Et le projet a été lancé, il a fini par aboutir à une caisse de retraite où il fallait, c'est intéressant comme référence parce que c'est pas très loin de ce que nous connaissons, il fallait avoir 38 ans de service et 60 ans minimum. Donc vous voyez, les choses n'ont pas tellement évolué tout compte fait. Mais ce bon principe n'était pas appliqué aux pasteurs. Les pasteurs, il fallait qu'ils aient servi au moins 30 ans et de toute façon, ils avaient un maximum de 500 francs. C'est-à-dire 500 francs par an, c'était le tiers du salaire en activité. Et pour les veuves, c'est une question qui n'avait pas été posée. Là, on était dans ce dispositif. Et c'est dans ce cadre-là que, en 1863, et là nous rentrons dans le vif du sujet, a été créée la caisse de retraite des pasteurs des Églises réformées de France. Parce que tout le monde avait la conscience que c'était nécessaire de faire quelque chose et que de toute évidence, l'État ne le ferait pas. Donc cette caisse a été créée. Elle a été créée grâce à un don important de 100 000 francs or, bien sûr, du président de Paris-Lyon-Méditerranée, le train qui allait de Paris-Lyon-Méditerranée. C'est lui qui a donné 100 000 francs or et qui a constitué une caisse de retraite, donc d'où son nom, qui avait un conseil d'administration de 12 personnes. Pour la petite histoire, il y en a toujours 12 au conseil de la Fondation, ça n'a jamais bougé. Et parmi ces 12 personnes, il y avait, entre autres, des gens bien connus, mais entre autres, le général d'Hauteville, qui a donné son nom à une des maisons de la Fondation en Ardèche. C'était d'ailleurs l'ancêtre du président du DFAP d'Hauteville, c'était la même famille. Et cette fondation, qui a été créée en février, a été, dès le mois de décembre, reconnue d'utilité publique par l'empereur. Et c'était indispensable à l'époque d'être reconnue d'utilité publique parce que où on existait, où on n'existait pas. Et le seul moyen d'exister, il n'y avait pas la loi 1901, il n'y avait pas tout ceci, le seul moyen d'exister, c'était d'être reconnue d'utilité publique. Donc elle a été tout de suite reconnue d'utilité publique. Ceci étant dit, il faut être honnête, un grand nombre de pasteurs ont continué à exercer jusqu'à leur mort. Et on a constaté en 1905, au moment de la séparation, que 10% seulement des pasteurs retraités relevaient de cette caisse. Donc c'était à la fois une initiative importante, ce n'était pas un secret exceptionnel. Il se trouve qu'en 1905, l'État s'est préoccupé, qu'est-ce que je vais faire des pasteurs que je rémunérais jusqu'à présent, des pasteurs et des prêtres d'ailleurs, et que je ne rémunérerai plus. Et il a trouvé, c'est assez curieux et ça mérite d'être relevé, une solution très généreuse, puisqu'il a décidé que tous les pasteurs qui avaient plus de 60 ans et qui étaient pasteurs depuis plus de 30 ans auraient une pension égale à 75% du traitement, ce qui était une révolution à l'époque. 75% du traitement, personne n'y pensait. Et que ceux qui avaient plus de 45 ans et plus de 20 ans de service, ça serait 50%. Mais les deux étaient quand même importants. Et troisièmement, c'est la première fois qu'a été décidé que les veuves de pasteurs, etc., dans ces situations, auraient le tiers de la pension qu'aurait eu leur conjoint. Donc c'est quand même un ensemble de dispositions tout à fait favorables, mais ces dispositions favorables ne s'appliquaient qu'aux pasteurs qui avaient eu ou 40 ans ou 20 ans de service avant 1905. Donc tous les autres pasteurs et tous ceux qui ont été recrutés après 1905, la question se posait. Et donc en 1907, le synode national s'est réuni et a décidé de rendre obligatoire l'adhésion à la caisse de retraite, telle que nous la connaissons. Et pour accompagner cette décision, il y a eu un don de 5 millions de francs, or aussi à l'époque, de la famille André. La famille André, c'était des riches mécènes culturels. Ils ont beaucoup aidé aussi la SHPF à Paris. Donc je veux dire, c'est un élément à retenir. Chaque fois qu'il y a eu des décisions importantes, il y a toujours eu par derrière une famille qui faisait un chèque consécutif. Ça, c'est un élément important. Et ensuite, restait le problème général des retraites en France, puisque le dispositif entièrement décidé en 1853 était très très peu utilisé. À l'époque, il n'y avait même pas 3% des Français qui avaient souscrit une retraite pour leur don. C'était infinitésimal. Et la première grande loi qui est arrivée pour les retraites, c'est la loi de 1910, qui s'intitule « Loi pour les pensions paysannes et ouvrières », dont l'objectif était clair. Et tout de suite, s'est posée la question: est-ce qu'on va y affilier les pasteurs? Tout de suite. La loi exigeait un contrat juridique en la matière. Certains disaient « les pasteurs sont dans un contrat juridique » et d'autres disaient « non, ils ne sont pas dans un contrat juridique ». Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, un, il n'y avait pas de contrat formalisé, deux, le pasteur était président de droit du CP, et trois, ils étaient membres des synodes, et quand on regarde la composition des synodes, ils étaient majoritaires aux synodes. Donc, en s'appuyant sur à la fois le fait qu'ils étaient présidents de droit et qu'ils étaient majoritaires aux synodes, les gens disaient « il ne peut pas être dans un contrat juridique puisqu'en fait c'est lui qui dirige ». Ça, c'est les propos de l'époque. Et en plus, les préfets n'étaient pas d'accord avec eux, entre eux plutôt. Certains disaient « ok » pour qu'ils soient inscrits sur le registre de salariés, et d'autres qui disaient « il n'en est pas question ». Donc devant toute cette situation, le synode national a décidé, chose curieuse, mais qui se comprend quand on regarde les débats de l'époque, d'inventer un procès, c'est-à-dire qu'un pasteur, on a demandé à un pasteur de faire quelque chose que n'acceptait pas le préfet, et d'aller jusqu'au bout de la procédure. Et heureusement, parce qu'ils ont beaucoup demandé dans quel sens allons-nous ? Est-ce qu'il refuse d'être affilié ou est-ce qu'il accepte d'être affilié ? Et le pasteur a refusé d'être affilié. Et donc c'est sur ce refus, et il se trouve qu'il est tombé sur un préfet qui lui l'avait inscrit, donc il y avait des accords entre le pasteur et le préfet, il se remontait jusqu'à la Cour de cassation, et la Cour de cassation a fini par dire, puisque le pasteur est président du droit du conseil prébitéral, et vu la place qu'il joue dans les synodes, il n'est pas salarié. N'en étant pas salarié, il ne peut pas être inscrit au régime de la loi. Et cette décision est très importante, car c'est l'origine du fondement actuel de la délibération selon laquelle les pasteurs n'enlèvent pas du code du travail. Ça n'a jamais bougé depuis 1912. Et ça, c'est un principe constant. Et quand on regarde comment on y est arrivé, ça a tenu un bout de ficelle. Je veux dire, il aurait suffi qu'on fasse le choix inverse et on aurait trouvé la situation inverse. J'ajoute que parfois on dit, puisque la même décision avait été prise pour les prêtres en 1911, et parfois on dit que la Cour de cassation s'est contentée de copier la décision pour les prêtres. C'est tout à fait faux. Quand on regarde les textes, elle savait bien ce qu'elle avait décidé pour les prêtres, bien sûr. Mais elle a étudié la situation des pasteurs de l'Église réformée évangélique de France. C'est un travail très pointu qui a été fait. Donc, les pasteurs n'ont pas pu adhérer à cette caisse, à la loi de 1910 sur les retraites paysannes et ouvrières. Et la situation ne s'est pas améliorée pendant la crise économique des années 1909, etc. Puisque le dispositif en vigueur de la caisse de retraite des pasteurs, c'était un dispositif qui reposait sur la capitalisation. Il y avait d'importants capitaux qui produisaient des revenus, et c'est grâce à ces revenus qu'on versait des pensions. Donc, le système a été beaucoup diminué, et c'est à ce moment-là qu'on a créé une collecte nationale qui a duré longtemps, la collecte nationale de Pentecôte. Bon, pas Pentecôte, toutes les paroisses de France faisaient une collecte pour les retraites des pasteurs, et les meilleures années, si j'ose dire, était reçu quand même 2 millions. 2 millions un dimanche, ce n'était pas tout à fait négligeable comme recette. Mais ce n'était pas suffisant avec l'inflation, la guerre, etc. Heureusement, en 1947, quand a été créé le régime général de la sécurité sociale, a été tout à fait, et délibérément je crois, oublié les contraintes juridiques de 1910. Ça a été tout à fait oublié. Tout ce qui suffisait, c'était de le demander. Et donc, les églises protestantes, mais pas que réformées, ont demandé effectivement que les pasteurs soient inscrits au régime de la sécurité sociale et le ministre tout de suite a dit oui. Donc dès 1945, et ce qui était important, c'est de ne pas oublier qu'à l'époque, lorsque les gens étaient inscrits au régime, ça entraînait une validation des années antérieures. C'est-à-dire si vous aviez 55 ans, que vous étiez à 55 inscrits au régime, vous aviez toutes les années pour lesquelles vous aviez été rémunéré antérieurement. C'est un aspect important pour comprendre bien des choses. Donc ça a été décidé en 1947, et en 1950, pour accompagner cette décision, a été créé un organisme que certains d'entre vous ont connu, qui était la CARP, la Caisse Auxiliaire de Retraite Pastorale. L'objectif de la CARP, ce n'était pas, contrairement à son nom, de verser des retraites, puisque les retraites étaient versées par le régime général, mais était d'une part de s'occuper des petits problèmes, parce qu'il y a toujours des situations particulières, des carrières qui ne correspondent pas aux normes, etc., et de s'en occuper, et d'autre part, et surtout, d'aider les pasteurs retraités pour tout ce qui concernait les mutuelles. Parce qu'il y a la retraite, mais il y a aussi le point des mutuelles, et le point des mutuelles, c'était une dépense nouvelle, un mutuelle de santé, et qui, à l'époque, en fait, proportionnellement, coûtait encore plus cher que de nos jours. dont ça a été le rôle de la carte lorsqu'elle a été créée. Troisième étape dans ce déroulement, il y a eu le régime général en 1947, la carte qui a été créée pour tous les points qui n'étaient pas réglés par les règles générales. Et troisième point, les églises, que ce soit réformées, luthériennes, baptistes, etc., la plupart des églises protestantes, ont adhéré en 1970 à l'ANEP. L'ANEP, c'est l'Association nationale d'entraide et de prévoyance. C'était tout simplement une association à laquelle on cotisait, et grâce aux cotisations versées à cette association, on percevait une retraite appelée complémentaire. Il y avait la retraite de base et la retraite complémentaire. Et le grand avantage de l'ANEP, c'est qu'elle a fait le même système qu'en 1947, le régime général. C'est-à-dire qu'un pasteur qui a adhéré en 1971 à l'ANEP et qui était pasteur depuis 30 ans, il a vu valider 30 années de cotisation qu'il n'avait pas versées. Il y a eu deux fois de suite ce phénomène très particulier de validation automatique des cotisations des années précédentes. Alors parfois c'était un ou deux ans, mais parfois c'était des durées très considérables. Et donc ça a été décidé en 1971, et c'est ainsi que s'est bâti le système de retraite que nous connaissons actuellement pour les pasteurs. Ce système rendait inutile le rôle de la caisse de secours, puisque les pensions principales étaient attribuées par le régime général, les pensions complémentaires par l'ANEP, et tous les compléments en matière de retraite un peu particulière ou de frais de santé étaient assurés par la CARP. Donc on aurait tout à fait pu supprimer la caisse de secours. Mais heureusement, ils se sont dit quand même, par rapport à tout ce qu'ont fait nos prédécesseurs, il faut la garder. Et on l'a été gardée, elle subsistait. Quand on regarde les comptes rendus, ils se réunissaient un petit quart d'heure, une fois par semestre. C'est comme les lieux de culte qu'on ne veut plus abandonner, etc., etc. Donc ils se réunissaient un petit quart d'heure, une fois par semestre, mais ils l'ont gardé. Et on va se rendre compte ensuite que ça a été très important qu'ils aient gardé cette caisse de secours qui ne faisait plus grand-chose. Voilà donc pour la première partie de l'histoire, une caisse de secours importante qui a rendu du grand service en dépit de l'insuffisance structurelle qui était qu'elle ne reposait essentiellement sur la capitalisation, mais qui a été tout à fait utile. Et on arrive aussi à deuxième partie sur l'origine et le développement de la fondation actuelle. Donc heureusement, la structure juridique caisse de secours avait été gardée, elle était tout à fait peu significative, et elle a été réveillée, c'est un terme je crois justifié, en 1988 par le Conseil national de l'Église réformée de France, qui a décidé d'abord de commencer par lui donner des moyens. Parce que, comme je vous l'ai dit, le patrimoine s'était beaucoup diminué, et le Conseil national lui a attribué deux moyens importants. D'une part, la succession d'une baronne russe, bien sûr, l'histoire c'est comme ça. Une baronne russe, la baronne Trossiza, qui avait une fortune considérable. Donc cette fortune a été reçue par l'Église et reversée à la caisse de secours, qui de ce fait avait un capital non négligeable. Et d'autre part, le Conseil national avait reçu aussi une maison à Sainte-Adresse. Sainte-Adresse est dans la banlieue du Havre, qui commençait à servir pour le logement de pasteurs retraités. Mais d'abord, Sainte-Adresse, ce n'est pas le grand soleil. Et puis ensuite, ce n'était pas une maison d'un modernisme considérable. Donc c'était vacillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le premier rôle a été d'augmenter les moyens de la Fondation. Et grâce à cette augmentation des moyens, la Fondation a demandé et obtenu, ça a pris du temps, mais elle a obtenu une réactivation de ses statuts, d'un certain nombre de dispositions, puisque quand même les fondations ont des avantages. Et il fallait réactiver les avantages que recevaient les fondations. Ça a été la première étape. La deuxième étape du réveil de la fondation, ça a été d'élargir son champ. Jusqu'à présent, c'était la caisse de secours des églises réformées. Cette caisse de secours avait fait des activités avec d'autres églises, luthériennes, baptistes, etc., je les ai mentionnées, mais chacun dans son camp, bien séparément. Et là, il a été décidé de modifier le statut de la fondation, pour que puisse être accueilli dans son statut et des luthériens, et ceci bien avant l'Église protestante unie, et des baptistes. Ça a été une évolution importante à l'époque. Et la troisième modification qui a été faite, ça a été d'étendre le champ de compétences de la Fondation. Jusqu'à présent, elle s'occupait que des pasteurs retraités, mais depuis lors, monsieur le doyen, elle s'occupe de tous les pasteurs retraités ou non. C'est là un changement important. Et elle s'occupe aussi d'ailleurs des salariés des associations culturelles, même s'ils ne sont pas ministres. Ça a été une extension importante. Et puis la dernière extension qui a été décidée à l'époque, et qui a pris aussi du temps, ça a été d'obtenir la capacité de créer au sein de la fondation ce qu'on appelle des fondations individualisées, c'est-à-dire des institutions qui ont toutes les compétences d'une fondation, mais qui pour autant n'ont pas l'obligation d'avoir le même capital qu'une fondation, parce que c'est quand même un capital important, ni la même structure et ses contraintes qu'une fondation. Donc on a les avantages sans en voir les inconvénients, pour faire bref. Et ça permet, entre autres, de recevoir les biens et les affectations d'associations qui ne sont pas toujours en mesure de continuer à exercer. Et c'est ce qu'a fait la fondation, puisque peu de temps après ce triple élargissement, elle a pris la suite de l'Association pour les pasteurs de France, qui était l'Association pour les familles pastorales de France, qui était une famille qui, depuis 1920, ça faisait longtemps, distribuait des bourses éducatives. Et ces bourses éducatives qui avaient été jusqu'alors données par cette association, qui était reconnue d'utilité publique, qui ont été transférées à la fondation par une fondation individualisée. Il a été fait de même, peu de temps après d'ailleurs, pour une autre association qui était une caisse de secours baptiste. Donc, et d'autres possibilités pourraient se présenter de nos jours pour la fondation qui pourrait accueillir d'autres associations prêtes à se dissoudre et continuer leur action dans le cadre d'une fondation qui est quand même, les circonstances les plus intéressantes, parce qu'une fondation a au moins deux avantages et on en verra rapidement un troisième. Premier avantage, c'est de recevoir des dons et des libéralités sans droit de succession. Et le deuxième avantage, c'est de recevoir tout revenu sans impôt. Donc c'est quand même non négligeable et c'est une grande différence pour le deuxième avantage par rapport à une association qui peut recevoir aussi des revenus, mais qui, elle, paiera des impôts. Donc toute une évolution structurelle de la fondation et qui a été possible parce que la fondation n'avait pas été dissoute lorsqu'elle n'avait plus rien à faire. C'est également un enseignement intéressant à retenir. Lorsqu'on a des capacités non nécessairement utilisables, il ne vaut pas nécessairement la peine de les supprimer tout de suite. Il faut attendre de voir l'évolution. Donc ça, c'est un point important. Et nous en arrivons ici à que fait aujourd'hui la fondation pour les actifs et les retraités, puisqu'elle est aussi active pour les actifs et les retraités. Ben, pour les actifs dont la fondation, elle donne des aides éducatives pour toutes les études qui se passent dans un autre lieu que celui où vit la famille pastorale concernée, que ce soit pour l'enseignement supérieur ou pour l'enseignement technique. Donc, au moment qu'il y a changement de lieu, il y a aide qui peut être donnée. Et la fondation, elle intervient aussi pour aider les familles pastorales qu'ils souhaitent à acheter leur future résidence, puisqu'ils n'ont pas besoin d'en avoir une tant qu'ils sont en activité, mais il faut penser à la suite. Et c'est un domaine non important, puisque les statistiques ont montré que près de 90 familles, comme ça, ont reçu des emprunts à titre gratuit pour acheter des résidences pour la résidence par la suite. Donc c'est quand même important, et c'est donc au bénéfice des ministres en activité. Et pour les ministres à la retraite, il y a d'une part les bourses dont on a déjà parlé, qui existent depuis les années 50, les bourses pour les mutuelles en particulier, mais il y a aussi les logements, ce qui a justifié notre venue ce matin à Montpellier, puisque c'était le sixième édifice que nous inaugurions, et que trois autres vont suivre prochainement, dont le troisième et neuvième, on en parlera tout à l'heure à propos du Mazé Saint-Foix. Et en tout, lorsque tous ces édifices seront utilisables, la fondation proposera ainsi 42 logements à des pasteurs à la retraite. C'est pas gigantesque, mais c'est pas tout à fait négatif. C'est un peu plus que le nombre des pasteurs en activité en CLR, c'est ce que j'ai retenu. Donc, ça fait partie des tâches importantes qui ont été faites. Le nouveau champ auquel commence à se colloter la fondation, c'est l'adaptation de la vie des pasteurs retraités au grand âge, puisque le grand âge se rencontre de plus en plus, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, c'est-à-dire de l'aménagement de l'appartement pour s'adapter aux contraintes du grand âge, et que ce soit également dans les équipements de soins qui vont avec le grand âge, les problèmes d'audition, de vision, etc., etc. Donc ça veut dire que même si le nombre des appartements risque de ne plus continuer à croître dans les besoins, il y aura d'autres besoins importants à continuer à satisfaire. Et donc il est important, me semble-t-il, qu'au-delà de l'évolution des besoins, la Fondation puisse continuer à intervenir.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, chers auditeurs et auditrices, vous nous écoutez en DAB+, ou sur nos podcasts, sur radioallianceplus.fr. Vous avez entendu un chant, une musique de Steve Reich qui s'intitule Tehillim. Mais avant cela, nous sommes revenus sur l'histoire de la Fondation des ministres de l'Église protestante qui nous a été donnée lors des 160 ans de la Fondation par Jean-Daniel Roch à Montpellier, jeudi 5 décembre dernier. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à la semaine prochaine.